Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé suffit.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais que diable est-il de faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des bois à l'autre promenade.
Non, cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Alors, cette galère me tient au cœur. Hein.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prend son temps de vous parler de spectacles vivants pour cette année 2014. C'est une coproduction...
2014
2024.
Tu veux nous rajeunir?
Oui. Non, mais les gens vont croire que c'est une rediff,
ouais,
en fait.
C'est ça.
Parce qu'en 2014, on a déjà dû la faire. Oh, terrible. C'est une coproduction entre le Tangram et Principe Actif. Et c'est toujours le plaisir de vous retrouver, Nathalie et Cécile. Bonjour.
Bonjour, JC.
Bonjour, JC.
Alors, au programme de cette émission, nous aurons l'occasion de parler de la médiathèque, notamment.
Oui, nous recevrons Madame Nadège Bastard-Hardy, qui est responsable de l'événement dans le réseau des médiathèques d'Évreux. Et elle nous parlera, on va parler de mots et d'écriture et d'ateliers d'écriture avec les réseaux des médiathèques.
En deuxième partie, il nous est arrivé quelque chose.
Et oui, Olivier de Sagazan sera à nos micros via les ondes pour nous parler de sa dernière création qui sera accueillie au Tangram à Évreux la semaine prochaine.
Alors je ne sais pas si je continue à lire le conducteur tel quel pour donner les infos, parce que l'info d'après c'est à poil.
À poil, à poil, bah oui, à poil. Prochain rendez-vous jeune public, fin janvier au Cube. Tout ça pour dire qu'on conclura notre émission avec l'agenda habituel, non exhaustif, de ces sorties du mois de janvier.
Nous terminerons avec une tradition qui est celle du film dont on donne aucun détail pour le moment.
On respecte les traditions encore en 2024. Restez au bout.
Alors, il y a une des traditions que nous ne respecterons pas cette fois, c'est celle du son d'ambiance. J'avais plus rien. Mais ça fait un mois quasiment.
Bah, début d'année.
Il faut bien qu'on soit un peu irrévérencieux en ce début d'année quand même.
Voilà. Donc, il n'y aura pas la traditionnelle extrait de son, mais qu'on retrouvera dès le mois prochain, bien entendu, parce qu'on va tourner plein de choses. On se faisait la réflexion, ce qui est l'occasion de revenir sur ces fameux sons d'ambiance, du coup. On se faisait la réflexion tout à l'heure, parce que je cherchais un son d'ambiance. Souvent, ces sons d'ambiance sont extraits de ce qu'on a tourné dans le mois quand on a fait nos reportages, principalement quand même avec les projets éducatifs que nous avons avec les enfants ou les seniors même. Et on se faisait la réflexion avec ma collègue Vinci tout à l'heure, on s'est dit, c'est qu'en fait nos groupes, plus ça va, plus ils fonctionnent bien, parce qu'on n'a plus de rush quasi. À une époque, des rushs, on en avait en veux-tu en voilà, des heures et des heures d'enregistrement qui ne servaient pas, parce que pas au point, pas prêt à être diffusé. Et on n'en a plus beaucoup, en fait, des extraits sonores comme ça.
Quand même, il faut le dire, c'est-à-dire que même ce qu'on diffuse dans les sons d'ambiance, comme tu viens de le dire, JC, c'est des sons qui sont diffusables, même si on aime bien montrer l'envers du décor, de ce qui se passe derrière les micros, de comment on prépare les choses. Évidemment, on ne dévoile pas complètement tout non plus, parce que, comme tu le disais, il y a des rushs
qui présentent aucun intérêt. Mais même des rushs, on n'en a presque plus. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, on s'est fait le constat avec les collègues là, c'est vrai que les montages vont de plus en plus vite. Les groupes avec qui nous travaillons depuis un moment ne font plus de rushs au kilomètre comme on avait.
C'est bien.
Rappelez-vous, il y a quelques années de ça, des rushs, vous en vouliez, je vous les trouvais
à la seconde.
Et on n'en a plus, que des trucs produits finis.
Mais
presque.
Ça veut dire que oui, en effet, c'est déjà une fidélité de groupes et d'ateliers qui, d'année en année, suit les ateliers de la radio. Et ça, c'est dans un parcours de formation aux médias, c'est intéressant, en fait. Et du coup, c'est productif, puisque au final, ils font leur émission, quoi.
Exactement.
Pour certains, ils
alors rassurez-vous, au mois de fin janvier, début février, on a deux ateliers, un au collège de Saint-André-de-l'Eure, qui vont faire leurs premiers essais. Donc là, j'aurai au moins 3 mois de rush, pas d'inquiétude. Et puis, on travaille aussi avec le collège de Navarre, que nous retrouvons la semaine prochaine à nos micros, à l'occasion du Fréquence Droit Humain autour de Mon Corps M'Appartient. Donc jeudi à 18h, jeudi prochain à 18h. Et là, nous travaillerons avec un groupe de collégiens. Vinci a déjà commencé à travailler avec eux hier. Elle recommence la semaine prochaine. Et là, on aura des rushs aussi. Donc pas d'inquiétude, on retrouvera nos traditions.
C'est vrai qu'on parle de rush, mais je ne sais pas si ça parle à tous nos, nos auditeurs et auditrices. Hein.
Ben voilà, c'est tous les petits moments que nous diffusons, pas que nous coupons au montage en fait. Quand nous partons avec un enregistreur, bien tout ce que les gens nous disent ou tout ce qui va se passer n'est pas le sujet, n'est pas le diffusable en fait. Et puis on a une technique aussi à Principe Actif, c'est-à-dire que quand on va faire un reportage par exemple, on tourne un petit peu avant en fait. Quand on descend de la voiture, souvent ça tourne déjà. Quand on est en train de rentrer dans un bâtiment ou autre, ça tourne déjà. On ne sait jamais, ça peut servir. Et bien souvent, c'est ce qui met un peu l'ambiance au reportage. J'ai l'habitude de dire, moi, aux jeunes qu'on encadre, un reportage, il faut emmener l'auditeur avec soi. Pour l'emmener, il faut qu'il entende les bruits de ce qui se passe autour.
Il ne faut pas oublier qu'on est à la radio et qu'il n'y a pas le support visuel, mais qu'il y a juste les sons, la voix, toute l'ambiance et l'atmosphère qui peut y avoir. C'est une dimension dans le média radio qu'il faut prendre en compte pour emmener justement l'auditeur avec nous.
Les jeunes, quand on les laisse après un atelier avec Principe Actif, quand on leur demande « Et pourquoi la radio, c'est mieux que la télé ?», ils disent toujours « Parce que ça fait marcher l'imaginaire. » Et voilà. Et donc, c'est gagné quand c'est comme ça. On part sur la première pause musicale. Et c'est Nathalie, je crois, qui l'a choisie.
Oui, j'ai un petit coup de Revival Remember, mais une superbe artiste, Kate Bush. Lady Kate Bush maintenant. Voilà, on peut dire que c'est une femme qui a marqué l'histoire de la musique moderne pop. Hein. Si on regarde un petit peu son histoire, quand même, les premiers samples, sons travaillés en Angleterre, c'est elle.
D'accord.
Voilà, donc c'est une cette femme, cette artiste a eu un impact majeur sur la musique actuelle pop européenne. Voilà, donc petit clin d'œil avec le morceau, je crois que j'ai mis, c'est Under the Ivy.
Exactement.
Et le ivy, c'est le lierre, en dessous du lierre.
Go
Kate Bush. Je laissais cette note jusqu'à la fin parce qu'on ne peut pas couper. Et nous vous l'avions dit lors de cette introduction, nous allons parler médiathèque et plus spécifiquement le chaos des mots avec Nadège Batard-Hardy. Vous êtes médiatrice culturelle, pardon. Non, plus. J'ai
tout.
Faux.
Bonjour,
alors, bonjour. Vous mettez, là, vous n'avez pas mis votre petit mot devant, là, votre
chargée
petit.
Chargée de la programmation culturelle, de la médiathèque.
Oh, oui, non, la médiation.
C'est différent parce qu'il y a un autre service pour la médiation et il y a un autre service de médiateur. Donc, vraiment, c'est différent chez nous.
Très bien. Donc, vous êtes rattachée au réseau des médiathèques hébroïciennes. Oui. On parle bien du réseau des médiathèques.
Tout à fait.
Et puis, dans quelques temps à peine, va se dérouler un grand événement sur lequel on va vous recevoir.
À nouveau,
tout à fait. C'est pour ça qu'on vous l'a dit, on allait vous installer un bureau à principe actif prochainement. Et aujourd'hui, vous veniez plus spécifiquement, en plus de venir avec le programme des actions, des événements.
Tout neuf.
Vous allez nous parler du chaos des mots. En quelques mots, comment ce chaos des mots vient se glisser dans une programmation événementielle culturelle?
Eh bien là, on va faire un peu le lien avec les médiations pour le coup, j'y sais, puisqu'on travaille quand même la programmation en lien aussi avec nos équipes, nos équipes de médiateurs organisent leurs propositions autour de la programmation culturelle qui sert un peu de fil rouge sur la thématique de la médiathèque, la thématique annuelle. Un projet comme le Chaos des mots, ça commence, peut-être que je l'explique d'abord comme ça commence par une association qui s'appelle Amilite et qui vient nous rencontrer pour nous présenter justement ce projet qui est né... Avec un Pro France et il nous proposait de le mettre en place à la médiathèque en fait. Pour vous expliquer peut-être un peu ce que c'est, parce que c'est un projet qui n'est pas, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit encore dans une ville comme Évreux. C'est un projet qui est assez nouveau, qui est inspiré du match d'improvisation théâtrale, d'où le lien avec un Pro France, mais qui est réadapté, un petit peu imaginé différemment autour de l'écriture. C'est-à-dire que, alors si vous connaissez les matchs d'improvisation théâtrale, on a deux équipes de comédiens, un arbitre, parce que ça fonctionne un peu comme, ça reprend l'imagerie du match de sport. Hein. Mm-hmm. Et il y a des thématiques piochées, et puis les équipes s'affrontent en improvisant sur chaque thématique, et les gens votent avec des petits papiers de couleur pour telle ou telle équipe. Enfin voilà, c'est assez ludique, et c'est vraiment basé sur l'improvisation théâtrale. Là, Chaos des mots, ce projet-là, les comédiens sont professionnels et les improvisateurs sont des écrivains apprentis, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont avoir assisté à des séances d'atelier préalables et qu'ils vont improviser le texte que les comédiens vont jouer sur scène. Je ne sais pas si... vous me dites si c'est pas clair.
Ils vont improviser le texte. Ils écrivent et les comédiens improvisent texte écrit.
En fait, écrit par les participants de l'atelier.
Quand la thématique sort, au lieu que les comédiens jouent directement une impro sur cette thématique, les écrivains improvisent un texte sur cette thématique et les comédiens, entre guillemets, s'affrontent. Enfin, les écrivains s'affrontent à travers les comédiens. Mmh. Les textes sont projetés sur un grand écran en fond de scène. Sinon, c'est à peu près la même configuration qu'un match d'impro classique. Enfin, il y a un maître de cérémonie, il y a un DJ, c'est quand même très mise en scène. Hein. Mais voilà, les écrivains, comme le disait Nathalie, vont assister à une série d'ateliers préalables. Ils font aussi de l'improvisation théâtrale, mais ils apprennent à se libérer sur l'écriture, en fait, et plus sur le domaine de l'imaginaire, mais via l'écriture.
Moi, je le vois vraiment comme sortir l'écriture du moment bulle intime et finalement le rendre plus interactif, plus public en fait. Hein.
Oui,
il y a un côté public et puis avec cette pression de la production sur un temps donné.
Oui, alors c'est le côté improvisation qui est gardé, comme vous dites, sur la pression du temps donné. Mais effectivement, il y a tout le travail là, l'objectif, on va dire, de ces ateliers, de ce projet-là, c'est vraiment
vraiment de libérer. Alors, ils ont beaucoup, dans d'autres villes, mis en place ce projet dans le cadre d'un appel à projet autour des cités éducatives, et donc avec des classes ou avec des groupes classes, en travaillant avec des jeunes qui sont en rupture avec l'écriture ou qui sont pas forcément en rupture, mais qui ont envie d'écrire, mais qu'osent pas parce qu'ils font des fautes, parce qu'ils maîtrisent pas bien, parce que si, parce que ça. Et eux, ils sont vraiment sur l'aspect libérer l'écriture, libérer son rapport à l'écriture, même son rapport aux fautes d'orthographe, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on tape quelque chose avec des fautes d'orthographe ou de grammaire, on va en jouer, pas s'en moquer, mais en jouer de façon positive dans l'interprétation et dans le spectacle.
Il y a un côté de... qui permet de désacraliser l'acte de l'écriture, en fait, pour finalement se le réapproprier aussi et travailler sur la spontanéité de l'expression.
Et se décomplexer, en fait, aussi sur son rapport à l'écriture.
Oui. Et du coup, c'est ça qui nous a intéressés, nous, à la médiathèque, et notamment en lien avec notre salon, enfin notre festival du livre jeunesse.
Parce que c'est hyper impressionnant d'écrire quand même. Ça reste, on dit souvent, la prise de parole. On dit les paroles volent et les écrits restent. L'écrit, en fait, vient marquer quelque chose d'hyper intimidant. On a eu l'occasion, nous, de le constater sur des ateliers radio où, justement, on se dit, bah, c'est la voix, mais la voix, ça s'écrit, en fait. Bien souvent, quand même, ça s'écrit. Et on se rend bien compte qu'à partir du moment où on dit aux élèves, dans le cadre d'ateliers éducatifs, on ne relira pas ce que tu écris comme tu veux, tu peux faire un seul mot qui fait le paragraphe, on s'en moque. Tes accords, tes conjugaisons, peu importe, ce qu'on va faire attention, c'est à l'oralité. Et ça, souvent, ça débloque l'écriture. Et souvent, c'est la consigne qu'on donne aux profs aussi, parce que bien souvent, ils sont encadrés par des professeurs. Ces élèves ont dit, à ce moment-là, on touche pas à l'orthographe, la grammaire, la syntaxe. On va s'occuper que de ce qui va sonner à l'oreille. Et on se rend compte que ça libère beaucoup l'écriture. Parce que c'est impressionnant, l'écriture, quand même.
Et puis, c'est un mode d'expression, en fait. On est aussi sur travailler les modes d'expression propres à chacun. Et là, chez l'enfant, à travers sa façon d'écrire, de s'exprimer aussi dans l'écriture. Et puis, on sait aussi que, pour faire le lien aussi après sur le livre et sur les lecteurs, on sait que mieux on aura cette facilité d'expression par l'écriture, et bien mieux... on va plus en avant pour aller lire après. En fait, c'est les écrivains, dans leur expression d'écriture, qui vont amener les meilleurs lecteurs. Ça, c'est une petite étude.
C'est vrai.
Et donc, voilà, c'est aussi très cohérent par rapport après à s'approprier ce monde du livre.
Et c'est vrai que les intervenants, la Dame Milite, parce que ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'en général, l'association gère le projet, c'est une association qui est dans le 78, mais travaille sur les territoires avec des compagnies de comédiens formés. Et donc, le comédien qui intervient ici, c'est Andy Primor, qui est un hébroïcien. Et ils incitent aussi les jeunes à lire dans son processus d'accompagnement dans l'atelier. C'est aussi votre écriture, elle va passer aussi par la lecture, votre maîtrise à un moment de l'orthographe, même si au début on le met de côté, ça va passer aussi. Et il y a une démarche à nouveau vers la lecture avec ces groupes-là à la fin du projet, que nous, là, on a mis en place comme un projet tout public. Hein. On croise des jeunes et des adultes, en fait, dans le projet.
Ce projet, il est ouvert à tous. En fait, là, moi, je me dis, tiens, j'ai envie de faire le chaos démo. Je peux aller faire le chaos démo.
Vous êtes bienvenue.
C'est vrai?
Oui, complètement. Mercredi prochain, 16h, médiathèque Roland Plaisance.
Alors, mais justement, oui, vous l'évoquiez, tous ces ateliers. Alors, comment on s'entraîne sur ces ateliers? Comment est-ce que c'est? Parce qu'en fait, il y a une restitution le 20 mars, en fait, de ces chaos.
Le 20, c'est le dernier atelier.
D'accord, ok.
Je sais pas,
c'est possible, pardon, excusez-moi. Ouais, voilà,
le spectacle participatif, la restitution sous forme de spectacle participatif, c'est le vendredi 22 mars.
Et du coup, que va-t-il se passer durant ces ateliers?
Alors, il y a toute une phase. Hein. C'est vrai que là, Andy serait mieux placé que moi pour vous parler du détail des ateliers. Mais à la fois, là, sur le premier atelier, il a démarré avec des exercices qu'on fait en théâtre, en théâtre d'improvisation, mais pas seulement. C'est-à-dire des exercices de mémoire, des exercices autour de l'imagination. Au début, là, il a travaillé sur l'oralité. Parce que finalement, les futurs écrivains du projet travaillent aussi l'improvisation théâtrale, parce que c'est quand même un projet qui lie les deux. Et puis, bon, théâtre et écriture, enfin voilà, le pas est quand même facile à faire. Enfin, le lien, en tout cas, entre les deux. Et puis, progressivement, les exercices de théâtre vont amener aux exercices d'écriture. Et à un moment des ateliers, il va y avoir des ordinateurs, il va y avoir l'écran, et ils vont commencer aussi à apprendre à faire vraiment la partie atelier d'écriture, à écrire devant les autres, à ce que ce qu'ils écrivent soit projeté, et à s'amuser autour des histoires, autour de l'orthographe, autour de tout ça. Enfin, c'est un peu... Je vous donne un panel un peu large parce que j'ai pas le, voilà, je n'ai pas la verve de d'Andy ni la.
ni la... On pourra peut-être l'inviter à
peut-être
nos micros.
Ce serait intéressant.
Voilà,
oui.
sur une prochaine émission ou dans le cadre des émissions de Principe Actif.
Eh bien, tout à fait. Sur ce chaos des mots, je vous le disais il y a quelques instants, est-ce que je peux y aller? Vous m'avez dit oui, vous m'avez même invité à y participer. ça mixe aussi les tranches d'âge, parce que les ateliers sont à partir de 10 ans.
Oui.
10 ans, c'est jeune, hein, oui. Forcément. Ça mixe aussi les âges, ça a comme objectif de qu'un enfant de 10, 11 ans se retrouve à côté peut-être d'un ancien de 65 ans, en passant par un adulte, je sais pas, de 40 ans, enfin peu importe, c'est ça, c'est aussi le but de mélanger aussi les publics.
Oui, complètement, le projet aussi de l'association Amilite autour de ce chaos des mots, c'est ça aussi, c'est de faire de l'intergénérationnel. Alors évidemment, quand le projet est mis en place au sein d'un groupe scolaire et d'une école, on est vraiment plus sur un groupe classe, mais quand c'est en dehors de ce dispositif-là, l'idée c'est de mixer les publics et de pouvoir partager ce travail-là, cette envie d'écrire, cette envie de mettre quelque chose en scène, etc. quoi, avec des gens d'univers et d'âges différents.
Ce qui mixe aussi le résultat, forcément.
Oui.
Ça veut dire que quand l'improvisation va arriver, j'imagine que le texte issu d'une tête créative d'un enfant de 10 ou 12 ans n'est pas la même chose que ce qui est issu d'une tête créative d'une personne de 60 ans, quoi.
Oui. C'est vrai que
c'est tout l'intérêt.
C'est tout l'intérêt, c'est aussi de ce travail sur l'imaginaire. Et puis, si vous avez déjà assisté à des matchs d'improvisation théâtrale, ça peut partir assez loin dans un délire aussi. Mmh. Hein. C'est une histoire qui est pas. On construit pas quelque chose pour que ça ressemble à une pièce de théâtre écrite et apprise. Mais il y a du délire, il y a du rire. Enfin voilà, ça doit aller vers ça aussi. Ouais. Ça doit libérer l'imaginaire aussi complètement.
Oui, on sent qu'il y a la notion de partage et de rencontre en même temps. En fait,
oui,
on va partager son écriture, on va se rencontrer l'un et l'autre à travers ce match, de mots. Ça, c'est intéressant. Et quel que soit l'âge, en fait.
Et puis, c'est toute la difficulté aussi de partager de l'écriture. Enfin, il y a une notion d'intimité dans l'écriture. Quand j'écris, finalement, j'écris pour les autres, mais j'écris de moi. En fait, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Ça peut être compliqué, ça s'apprend en fait d'écrire pour les autres.
Mais il y a beaucoup de personnes qui écrivent plus pour elles-mêmes dans une démarche un peu de libérer quelque chose qu'on ne fait pas voir en fait, mais qui se libère sur le papier et qu'on ne fait pas lire et qu'on ne donne pas à voir. Et effectivement, il y a une démarche qui peut être un peu complexe de donner à voir ce qu'on a penché sur une feuille et qu'on peut avoir caché, fermé, etc. Donc ça s'apprend aussi, de pouvoir aussi, comme on le disait tout à l'heure, se décomplexer en fait. Est-ce que ce que j'écris c'est bien? Est-ce que là on s'en fiche en fait, on veut juste le partager et en soi tout est bien, rien n'est mauvais dans ce qui pourrait être produit.
Et c'est intéressant aussi de se dire qu'au bout d'un moment, il n'y a pas le jugement de ce qu'on va écrire, mais au contraire la réception. Et puis... comme c'est de l'échange, finalement, faire progresser sa propre écriture et faire progresser, peut-être la rendre plus accessible à l'autre, justement à travers ce jeu croisé.
Oui, c'est vraiment ça.
Et puis se rendre compte aussi, du passage à l'oralité aussi, finalement, parce que quand on écrit quelque chose sur le papier... On ne sait pas comment ça va sonner et on peut se dire sur le papier que c'est moyen. Puis en fait, une fois que c'est parti et que c'est traversé par, et interprété effectivement par la parole, par un comédien, une comédienne, ça prend un autre sens aussi.
Ça marche aussi pour la faute d'orthographe, en fait, ce que vous dites. C'est-à-dire que du coup, si on lit avec une faute, on va le prononcer différemment et on va en jouer. Et la faute d'orthographe, elle est décomplexée parce que ça devient quelque chose de drôle et d'humoristique et de positif en fait. Ouais.
Ça s'adresse à tout le monde. Faut s'inscrire quand même aux ateliers. Comment ça marche? Faut se signaler auprès de la médiathèque.
Faut s'inscrire de préférence. Pour l'instant, on a plutôt, comme ça démarre tranquillement, on a plutôt ouvert et on a invité les gens à venir essayer, à venir voir et puis à s'inscrire au fur et à mesure. Donc pour l'instant, ça démarre doucement. Mais là, les personnes qui ont commencé à venir sont très enthousiastes et sont en train de ramener d'autres personnes et de voilà. Je pense qu'on aura un groupe un peu plus étayer assez rapidement. Mais sinon, oui, il faut s'inscrire ou venir directement le mercredi à 16h. Voilà. Alors là, si on a un groupe qui se constitue, il va falloir venir rapidement parce qu'après, le groupe n'est pas extensible à l'infini. On ne peut pas avoir un groupe de 20 personnes sur ce projet. Hein. Ouais, on est limité à 12 personnes quand même. Mais pour l'instant, il y a encore de la place. Donc, mercredi prochain, on peut venir voir à 16h à la médiathèque, par exemple.
Et la finalité, ce sera à l'occasion du Salon du Livre Jeunesse.
Du festival cette année.
Festival, mais ça, on appelle ça un festival.
On aura l'occasion d'en reparler, mais on a redimensionné le projet et renommé Festival du Jeunesse. Oui, tout à fait.
Très bien, bah, le rendez-vous est pris. Il suffit d'aller à la médiathèque Roland-Plaisance.
Médiathèque Roland-Plaisance ou de nous appeler sur le portable de la médiathèque Roland-Plaisance qui est disponible sur le site internet.
Tout à fait, on vous appelle, on vous prévient qu'on est intéressé. On fait les mercredis à 16h jusqu'au 20 mars.
C'est ça.
On échange avec l'équipe encadrante et on s'essaie à l'écriture.
C'est ça, et c'est gratuit, je précise. Tous les ateliers sont accessibles gratuitement pour le public.
Tout à fait, bah, c'est important de le rappeler. Oui. C'est accessible et gratuit, ce serait bien ballot de pas en profiter.
Voilà. Exactement.
C'est comme ça qu'on dit.
Exactement.
Quelque chose à ajouter qu'on aurait oublié sur ces ateliers, le chaos des mots?
Écoutez, non, je pense qu'on a été assez complet. Nous, on espère vraiment que ce projet va avoir une belle suite parce qu'on est très content d'avoir rencontré Amélie et Andy pour démarrer ce travail. Et je pense que c'est vraiment un projet qui vaut le coup. Voilà.
Très bien, on peut se rapprocher de la médiathèque. Comme vous le disiez, il y a un programme tout frais, tout neuf, là,
oui.
Janvier-juin.
Oui.
Il vaut le coup parce que là, on a parlé du chaos des mots, mais il y a tout un tas d'autres actions dans ce programme. Disponible à la médiathèque et à plein d'endroits.
Ça vient de sortir, oui, on est en train de le distribuer un peu partout. Et il n'y a pas trop de détails encore sur le Festival du Livre Jeunesse, puisqu'on est en train de boucler la programmation. Mm-hmm. Mais il y aura une édition, il y aura un programme spécifique pour le festival en mars, qui va s'étendre un peu cette année sur 3 semaines avec plein de petites actions en attendant les temps forts du week-end. Donc il y aura un programme rapidement maintenant pour le festival. Mais sinon, tout le reste jusqu'à juin, c'est là.
C'est ça, voilà, savoir ce qui se passe dans vos médiathèques de janvier à juin, c'est là que ça se passe.
Exactement.
Voilà.
Et sur notre site, évidemment.
Tout à fait. Et puis, je me permets quand même de le rappeler, le troisième vendredi de chaque mois sur l'antenne de Principe Actif, le vendredi à midi et demi, c'est le pendant un petit peu de Scène de Vie sur vos rythmes. C'est Biblio +, l'émission des médiathécaires, du réseau des médiathécaires hébroïciens.
Exactement. Voilà. Et la semaine prochaine, on se retrouvera du coup en direct de la médiathèque avec Principe Actif pour cette belle émission dans le cadre des Nuits de la Lecture.
Voilà.
C'est l'agenda qui commence.
C'est bien de faire de croiser
les bouclés.
Quand je disais tout à l'heure que Nadège, faudrait qu'on lui mette un bureau ici chez Principe Actif, c'est pas par hasard, c'est qu'en fait, elle va pas arrêter de venir nous voir pour des événements, j'allais dire tous les mois, ça c'est sûr, mais peut-être même toutes les semaines, méfions-nous.
Oui, voilà. Ouais, tout va bien, je suis garée devant, j'y sais tous les matins, comme je vous l'ai dit, donc je suis dispo.
Très bien. Eh bien, nous poursuivons avec un deuxième extrême musical, Clara Yael. C'est Nathalie également qui s'y est collée, ou c'est Cécile?
Clara Isée. Mais on est en 2014 aujourd'hui.
On est en 2014, donc, voilà. C'était un peu compliqué.
Voilà. C'est pour moi ça. Même quand c'est pas en anglais, je galère. Allez, Clara
Isée, pyromane.
Voilà, on en reparle après?
Oui.
Que vienne la nuit, que vienne l'heure où le soleil gémit, que vienne la nuit et que demeurent les sages endormis. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Tu me dis j'ai peur, la décennie à l'odeur de l'incendie, à toi qui ouvre ton cœur cette nuit, je te la souhaite infinie. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Sous nos tables de nuit sont rangées des litres d'essence, pyromane de l'ennui, il est temps de cramer le silence. Laissez-la nous gagner. danse, laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Le feu nous éblouit, car cette nuit, notre vision est grande. Sens-tu venir? Où le soleil gémit, que vienne la nuit et que demeurent les sages endormis.
Et nous écoutions Clara Isé avec Pyromane. Nouvelle autrice, compositrice, interprète, Clara Isé commence à marquer le paysage musical français. Peut-être qu'elle viendra faire un jour un tour à Évreux.
Même en avril.
J'ai cru entendre.
Le vendredi 12 avril au Cube à Évreux.
Voilà, bel univers à découvrir que Clara Isé. Alors nous accueillons Monsieur Olivier de Sagazan. Vous nous entendez? Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci. Bienvenue et merci d'être avec nous ce midi sur les ondes de la radio Principe Active dans notre émission Scène de vie. Vie de scène, qui est donc une émission coproduite avec le Tangra. Mais je crois que vous avez quelques acquaintances avec cette structure culturelle. Cécile ?
Oui, bonjour Olivier. Effectivement, le public hébroïcien a rencontré votre travail la saison dernière avec la Messe de l'Âne. Alors, pour rappeler, vous êtes peintre, sculpteur et votre passion, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, pour la matière vivante, vous a mené vers la mise en scène, vers la chorégraphie. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez cheminé en fait vers le spectacle vivant ?
À l'origine, moi, j'ai une formation de biologiste, biochimiste, et j'étais toujours, en faisant ces études-là, passionné par la question du vivant. Et donc, je voulais comprendre cette logique du vivant. Et mais par la suite, j'ai cheminé du côté de la peinture et de la sculpture en découvrant un certain Rembrandt qui m'a fait voir que tout d'un coup, ce personnage avait une capacité de représenter la vie et de dire le vivant de façon assez remarquable. Alors que les études de biologie, après passer au niveau de la thèse, etc., deviennent des sujets extrêmement précis, où on va passer pendant 3-4 ans à faire, une étude de la régulation du nitrate chez le chou-fleur, par exemple, et la question du vivant disparaît un petit peu sous les chiffres et des... un phénomène de spécialisation. Donc je suis parti du côté de la peinture et ensuite de la sculpture et bon an à l'an. Mais j'avais toujours ce regard de biologiste, c'est-à-dire que quand je faisais une sculpture, je voulais vraiment qu'on ressente une présence. Et bien entendu, c'est toujours extrêmement difficile et 9 fois sur 10, on rate. Et un jour, depuis une semaine, je bataillais contre une sculpture, n'arrivant pas à lui donner la vie. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, tu vas lancer ton corps dans la bataille. C'est-à-dire que tu vas te recouvrir de tous les éléments avec lesquels tu travailles pour sculpter, c'est-à-dire de l'argile, du chanvre, de la peinture, etc. Et là, au moins, tu seras sûr d'avoir du vivant à l'intérieur de ta sculpture. Et j'ai eu la bonne idée de filmer ça et ça a donné cette performance Transfiguration que j'ai réalisée ensuite plus de 300 fois dans le monde entier. Et c'est une performance où donc un personnage arrive en costard cravate sur scène et se transforme, se recouvre d'argile et réalise une série de masques comme ça, d'abord sur son visage et ensuite sur tout son corps. Et cette performance fait apparaître, on peut dire en direct, une peinture de Francis Bacon en train de se faire, quoi. Et c'est comme ça que je suis passé du peintre, on va dire, au danseur, grâce à cette ellipse-là qui consiste à se dire, tiens, je ne vais plus peindre sur un support extérieur, sur un tableau, mais je vais peindre et sculpter sur moi. Et ce basculement-là, en fait, d'un seul coup, m'a fait aller du côté des arts vivants.
C'est assez incroyable parce que, du coup, alors à Évreux, on n'a pas pu découvrir Transfiguration, mais on a pu découvrir la Messe de l'Âne, qui reprend en fait ce principe de transformer les corps en fait avec la matière, de faire voir finalement autre chose, une autre forme aussi de vie. Et effectivement, la transformation devient un ballet, devient elle-même une chorégraphie. Le geste est mis en scène, finalement, et nous fait cheminer, nous fait avancer, en fait, dans le point de vue qu'on peut porter, dans le regard qu'on peut porter sur les interprètes qui sont sur scène. Et effectivement, ça prend vie. Et dans la logique de comprendre le vivant, il y a aussi cette volonté de donner un autre regard. Alors là, vous allez me dire, effectivement, c'est très proche du peintre aussi, du travail du peintre, du sculpteur, mais c'est un regard en mouvement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ce n'est pas vraiment une question. Je suis désolée, c'est quelque chose d'un peu jeté comme ça. C'est plus une réflexion. Je ne sais pas si vous avez envie de rebondir dessus, sur effectivement comment on fait évoluer le regard du spectateur. On l'accompagne en fait dans une façon de penser.
Bah, effectivement, l'élément fondamental de cette histoire de masque, qu'à la différence de toute la grande tradition des masques, qui sont des masques rigides, là, en fait, j'ai inventé, il me semble, un autre type de masque, qui est un masque mouvant. Mm-hmm. Donc, le personnage se met d'abord une fine couche d'argile sur le visage, il commence à dessiner quelque chose dessus, puis ensuite, il efface, il recommence, toujours en épaississant. Et donc, on est comme face à un peintre qui est devant son tableau, sauf que c'est le corps qui se transforme, et ces transformations successives sont belles à tous les niveaux, aussi bien dans l'effacement que dans la création. Le masque n'est jamais abouti, il est tout le temps mouvant, comme finalement nos visages, en fait. Un visage, ça ne cesse d'évoluer entre le sourire, le froncement de sourcils, le rire, etc. Et donc, et ce qui est très surprenant à voir, c'est qu'on comprend que l'acteur, peintre, travaille en aveugle, puisqu'il ne voit pas ce qu'il fait. Et c'est cet aveuglement, si je puis dire, qui lui permet de sortir de la mimétie habituelle. C'est-à-dire que lorsque vous faites une peinture, vous faites par exemple un personnage sur une toile, vous faites un cercle avec les yeux, la bouche, etc. Vous recommencez à reculer, puis vous vous dites, ah ben non, là, mon œil droit est un peu trop bas, donc vous venez corriger, etc. Et donc en permanence, on est dans la correction, et en permanence, on se reprend, bardé de son surmoi, de toutes les conventions, de ce que nos maîtres nous ont appris, de ce que papa-maman nous a dit, etc. etc. Et là, le travail en aveugle nous permet de sortir de ce regard extérieur qu'on a toujours, qui nous demande d'aller dans une bonne ligne. On n'imagine pas l'énergie qu'il a fallu à un Picasso pour tout d'un coup s'autoriser à faire deux yeux sur le même côté du profil, si vous voulez. Et donc la défiguration, cette transformation du corps et cette transformation de la réalité est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que je pense qu'on est tous de gentils, dociles servants de la machinerie ADN et de ce que la société nous demande. Et donc, pour sortir un petit peu des sentiers battus, c'est très difficile. Or là, justement, avec cet aveuglement, on le fait directement.
Alors, avec Il nous est arrivé quelque chose, vous changez un peu le mode opératoire, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le dispositif de Il nous est arrivé quelque chose ? Parce que là, il n'y aura pas d'argile sur le plateau, en tout cas. C'est une autre forme d'aveuglement.
Il n'y a pas d'argile. n'y a pas d'argile. On est toujours avec ce regard de biologiste, et pour cause, on va mettre un personnage dans un grand tube à essai et on va secouer le tout un petit peu. Et mais on reste aussi dans ce processus de la défiguration, c'est-à-dire que là, le jeu, c'est de défigurer non plus le corps, encore qu'il va un peu être défiguré, parce qu'avec la montée de l'eau dans le tube, il y a une partie du corps qui va être dans l'eau et qui va devenir énorme par un processus de loupe. Mais l'idée essentielle, c'est pas tant de défigurer le corps que de défigurer le langage. Et là, ce personnage là qui est dans un tube à essai, qui va courir sur place pendant une heure, va alors il y a trois, on va dire trois grandes parties. Une première partie purement physicaliste, c'est-à-dire qu'il y a juste le corps qui court. Il est bardé de tas de récepteurs sensoriels, des micros, un capteur cardiaque, etc. Et donc on va en permanence transporter les informations de ce corps-là à l'extérieur du tube, sur un écran avec un électrocardiogramme, avec deux musiciens qui vont reprendre tous les sons du corps et vont les transformer, un vidéaste qui va être là avec sa loupe, son iPhone pour, comment dirais-je, scanner le corps un peu partout et le reproduire en énorme sur l'écran par derrière. Et puis, une deuxième partie, ça c'est la première partie physicaliste, une deuxième partie où le personnage commence à sortir des mots au hasard. Donc, voilà, je sors des mots au hasard, robinet qui coule, taxi jaune, traversée mur, étendard, syneptie, espérance. Bon, voilà, des mots que je sors au hasard comme ça. Et il va le faire comme ça. Et alors au début, c'est un peu laborieux, puis ça commence à aller de plus en plus vite, et puis il va commencer aussi à sortir des phrases un peu au hasard, comme le faisaient les surréalistes dans leur écriture automatique. Mmh. Et puis, et ensuite, il va s'interroger sur l'origine de ces mots. Et c'est là où l'affaire se complique, puisque s'interrogeant sur l'origine de ces mots, il va se demander si en permanence, en fait, lorsqu'il parle, il n'est pas plutôt parlé que parlant. C'est-à-dire qu'il n'est pas en fait un simple agent conversationnel, chat génératif, pre-trained, etc. Est-ce qu'il n'a pas été entextué, qu'en fait il est en train de lire un texte et que finalement nous lisons tous un texte depuis notre naissance. Voilà, je résume un peu, mais c'est un peu ça l'idée de fond.
Je rebondis, enfin, la sensation que j'ai en vous écoutant, monsieur de Sagazan, c'est qu'il y a quand même, je sens moi une mise à l'épreuve à chaque fois dans votre démarche. Il y a beaucoup de mise à l'épreuve, on va mettre la chose sur la paillasse, on va éprouver le corps dans un nouveau contexte. Moi, ça me fait penser en effet à comme un artisan ou un chercheur sur sa paillasse qui va chercher, qui va tester, qui va découvrir, qui va s'interroger et ça va amener quelque part. En vous écoutant depuis le début, j'ai cette notion de mise à l'épreuve, prouve.
Tout à fait.
Éprouvette, je sais pas, il y a tout ça qui me vient en fait.
Oui, non mais je pars d'un grand principe de biologie, encore une fois. C'est le concept d'habituation, c'est-à-dire que,
d'accord,
vous savez, quand vous excitez un nerf, vous avez une réaction du nerf, on a ce qu'on appelle un potentiel d'action. Et quand on l'excite une seconde fois, à nouveau un potentiel d'action, puis au bout d'un moment, le potentiel d'action décroît et finit par disparaître. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'habituation. Mmh. Et je pense que nous sommes tous dans un phénomène d'habituation à la vie. C'est-à-dire qu'on ne prend plus conscience, comme un enfant, du caractère phénoménal, extraordinaire d'être en vie. Et pour sortir de cette habituation, qui est une forme d'hallucination collective, je pense que l'art a sa part à jouer grâce à des images fortes ou des mots forts ou des textes forts. Et effectivement, il faut mettre le corps un peu en déséquilibre. Et c'est dans ce déséquilibre-là qu'il peut générer tout d'un coup des comportements inhabituels et étonnants et remarquables qui vont tout d'un coup réveiller les dormeurs que nous sommes. C'est-à-dire que tout à fait comme dans Dune, oui, le film Dune que vous connaissez forcément, à un moment donné, il y a la question, il faut réveiller le dormeur. Et là, c'est ça. Je pense que nous dormons tous, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène de banalisation du quotidien. Et pour sortir de cette banalisation, il faut des images fortes. C'est ces mouvements océaniques dont Freud parlait. C'est-à-dire quand tout d'un coup, vous tombez amoureux, d'un seul coup, toute le monde se transforme. Ou quand vous perdez un ami cher, d'un seul coup, aussi, là, c'est une prise de conscience très forte de la singularité de la vie, etc. Et donc, pour moi, l'art, c'est ça, c'est créer des images fortes, mais ça sous-entend effectivement de mettre l'artiste ou les artistes dans des situations un peu de performeurs, quoi.
Oui, comme on peut aussi changer, découvrir, autre, être autre à l'épreuve de ce qui nous arrive aussi dans la vie. Hein. C'est tout nouveau changement du cadre qui va nous faire bouger.
Voilà, exactement. Mmh. Ouais.
Donc on se retrouve jeudi prochain au Cube. Je le reprécise, hein, c'est bien au Cube, ouais. Jeudi 18 janvier. Pour justement nous réveiller, porter un autre...
Oui, réveiller, ouais.
Voilà, ah oui. On y compte.
C'est le but du jeu, on se réveille tous ensemble.
Hein, on se réveillera.
Collectivement, voilà. On va se réveiller.
On se réveillera collectivement. Merci beaucoup Olivier de Sagazan et à la semaine prochaine à Évreux.
Merci à vous, à bientôt.
Merci.
Je vous propose, moi, que nous repartions en musique avec Los Baby Jaguar. Le titre choisi, c'est Las Piñas. Baby Jaguar. Moi, j'aime bien ces instrus comme ça qui nous emmènent. Un petit côté psychédélique, un petit peu dans ces instrus qui tournent.
Et dansant aussi.
Hein, ouais, dansant. Ah bah oui, dansant, tout à fait. Voilà, c'était l'envie de partager ça avec vous.
Merci.
Et ça nous amène jusqu'à cet agenda non exhaustif que nous avons devant nous. Et comme à chaque fois, comme nous y sommes préparés collectivement, bien entendu, nous ne savons pas qui a les premières dates, qui a les dates d'après. Ça va être donc chacun son tour. On arrête de faire semblant d'être prêt sur cette partie-là. Chacun s'est préparé dans son coin, mais on n'a pas d'ordre et de cohérence. Peut-être même on aura des mêmes dates.
Oh, moi, c'est fort possible. Oui, exactement.
Qui commence ? Plouf, plouf. Cécile. Allez.
Cécile, c'est toi qui es la plus... A priori, c'est toi qui es la plus près.
C'est moi. effectivement, moi, on va faire un bond et on va aller fin janvier avec le spectacle d'Alice Laloy, la compagnie S'appelle Revient, qui s'appelle donc... À poil, qui est un spectacle. On est un peu sur la performance quand même en ce mois de janvier, puisque là, c'est une rencontre entre le public, le jeune public, puisque c'est accessible à partir de 3 ans, et les roadies. C'est-à-dire que on va voir ce qui se passe si le spectacle n'est pas prêt quand le public arrive, ou je sais pas, enfin, il va se passer un truc étrange, en tout cas, au Cube, le samedi 27 janvier, à 17h. Voilà.
Tu veux dire de l'inattendu ?
Ah bah, de l'inattendu. De la rencontre.
De la rencontre.
De l'inattendu. Mmh. Et de la douceur. Voilà.
Très bien.
Je laisse planer un peu.
Mais c'est bien, ça donne envie, en fait.
Je ménage. Très bien. Voilà. Et puis je clôt, du coup, je me permets, le mois de janvier avec de la danse. Et la Fatoumi et Eric Lamoureux, qu'on n'a pas vu depuis un petit bout de temps, quand même, à Évreux. C'est Too Moon. Alors, c'est une de leurs dernières créations. C'est un grand plateau, on est au cadran. Il y a de magnifiques projections. C'est d'ailleurs... le visuel est vraiment très, très beau. Il y a des grands voiles, en fait, sur le plateau. Il y a des projections mouvantes de branches d'arbres, d'herbes, de racines enchevêtrées. Il y a un côté très, très végétal. En fait, on voit apparaître des sortes de paysages très, très luxuriants. Les danseurs vont évoluer au milieu de ce danseur et autour d'un saxophoniste de jazz, qui est quand même Raphaël Imbert, et qui vont évoluer en fait tous ensemble. Voilà, c'est vraiment... Ce spectacle, c'est une invitation à mettre en relation tous les imaginaires.
Souvent, dans les spectacles de Ella Fatoumi et Eric Lamoureux, la dimension de scénographie est très, très belle. Elle travaille beaucoup cette dimension sur le plateau et sur des grands plateaux, généralement. Ouais, visuellement, ça donne des choses souvent très... des images fortes qu'on peut retrouver sur le plateau avec ses chorégraphes.
Ouais, voilà. Donc, ce sera le mardi 30 janvier à 20h au Cadran à Évreux.
Et ben moi, j'ai un truc pour demain après-midi.
Ah bah super.
Voilà, on sort dès demain après-midi. Vous allez à la médiathèque de Netreville voir l'exposition de Simon Ripoll Hurier qui s'intitule On the Town. Et Simon Ripoll Hurier va rentrer dans le cadre d'une résidence d'artistes sur le quartier de Netreville, où il va mener des ateliers en lien avec le son. Quels sont les sons du quartier pour les habitants, et avec aussi une initiation à la prise de son à travers tout ça et au montage pour pouvoir créer une œuvre collective, une œuvre plastique, parce que Simon Hurier est un plasticien. Son exposition, c'est un projet de médiation culturelle qu'il a déjà mené dans différents lieux, et notamment au lycée agricole. Je crois de Chambray, me semble-t-il, si je ne dis pas d'erreur.
Et là, il expose une partie de ses œuvres sur des précédentes, sur des précédents projets, et il pourra vous faire tester un peu la prise de son, une initiation. Donc venez ce samedi à la médiathèque de Netreville découvrir cet artiste.
Très bien. Moi, je me suis concentré sur 3 jours, hein, pas plus, sur ce mois de janvier. Je vous fais un
zoom. C'est vrai qu'il y a
zoom.
Des propositions, quand même.
Ben, oui, non, mais du coup, je fais un zoom sur le 19, le 20 et le 21 janvier, le week-end prochain, en fait, hein, tout simplement. Je vais commencer peut-être par le vendredi 19 janvier à la Guerre aux Musiques de Louviers. C'est ce qu'ils appellent les locaux live. Les locaux live, c'est les groupes qui répètent dans les locaux de répétition de la Guerre aux Musiques et qui font des lives, alors il y en a durant l'année, ce vendredi 19 janvier à partir de 20h30 ce sera Blues Rock avec TSF et Yellow Echo, Pop Rock, ça sera la thématique de la soirée. Comme c'est la guerre aux musiques et qu'ils sont sympas, l'entrée est gratuite bien entendu, donc l'occasion de voir la vivacité de la scène locale sur la scène de la gare aux musiques. Nous l'avons évoqué très rapidement avec Nadège, le samedi 20 janvier va se tenir les Nuits de la Lecture. Alors même s'il fera jour sur une bonne partie des Nuits de la Lecture, en tout cas ce sera le samedi 20 janvier dans le réseau des médiathèques et principalement à la médiathèque Roland Plaisance. Il y aura de la lecture pour les plus jeunes, les 0-4 ans. Il y aura de la lecture autour du corps et de la lumière. Il y aura de la lecture dansée et de la lecture en théâtre. Voilà un programme des Nuits de la Lecture au niveau du réseau des médiathèques hébroïciennes. Et ça se passera sur la bibliothèque du centre-ville Roland Plaisance. Je vous invite à vous y approcher. Et puis, au Cirque Théâtre d'Elbeuf, le 20 et 21 janvier, va se dérouler le spectacle Steak. Entre danse contemporaine, danse hip-hop, entre jonglerie et acrobatie, c'est un spectacle à partager à partir de 8 ans. C'est clou. Mais pas que, en fait. C'est dans ce qu'ils appellent les fantaisies proposées par le Cirque Théâtre d'Elbeuf. C'est le samedi et le dimanche, samedi 20 et dimanche 21 janvier au Cirque Théâtre d'Elbeuf, et c'est Steak. Voilà, c'est les repérages que j'ai eu moi pour ce mois de janvier. Mais je vous ai dit, hein, je me suis concentré sur un seul week-end, moi.
C'est déjà pas mal. Et puis, bah, évidemment, hein, comme d'habitude, les internets, les réseaux, voilà, il y a toujours plein de propositions au cours de ce mois de janvier, même si c'est vrai qu'on pense, on sort tout juste des fêtes et la galette et tout ça, mais juste.
Oui, on n'a pas fait la liste des galettes associatives.
Non,
parce
voilà.
Parce que toutes les assos ont leurs galettes.
Et oui, c'est le mois, c'est normal. C'est normal.
On va terminer sur un extrait de film. Oui. Et c'est toi, Nathalie, qui t'y es collée, crois.
Oui, je...
T'es en train de chercher tes notes.
Voilà, je râle, là, mais en fait, Madame Cinéma. Je vous présente, parce qu'en fait, ma petite liste, pour vous raconter ma vie, mon portable n'arrête pas de sauter. Et à chaque fois, je suis obligée de télécharger. Et ben voilà, il a ressauté. Et voilà, et donc en direct avec vous, je le réanime. Donc oui, non, le film que je vous propose de découvrir ce mois-ci, c'est « Au capitaine ». C'est un film qui vient de sortir cette semaine ou la semaine prochaine là, sur les écrans. Et c'est Matteo Garrone qui le réalise, qui est un réalisateur italien. On lui doit le grand film « Gomorrée » sur la mafia italienne récemment. Voilà, c'est du fait de cinéma assez puissant. Et là, il va filmer, raconter le parcours, l'itinéraire de migrants quittant l'Afrique centrale pour venir en Europe, avec tout le parcours physique de sa ville, de son village. Il prend les personnages de deux jeunes Africains amis qui vont ensemble décider de quitter leur famille et leur pays pour trouver un Eldorado. Et il fait prendre conscience à travers une grande esthétique hein, de l'image et du plan et de la lumière travaillée hein, sur ce film. Profondément, aux spectateurs, c'est la dimension du parcours. On parle beaucoup dans les médias, c'est la traversée de la Méditerranée, c'est les camps. à Sangat. Mais en fait, la réalité du point de départ, juste quand ils arrivent aux côtes européennes, c'est déjà avant tout un énorme parcours. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà arrivés à la porte de la Méditerranée, ils ont déjà traversé d'innombrables épreuves. Et nous marque aussi la réalité géopolitique de l'Afrique du Nord aussi. Voilà. Donc c'est franchement à travers une œuvre de cinéma, c'est un grand moment aussi de notre histoire contemporaine.
Moi, capitaine, sorti le 3 janvier dans les salles. On écoute l'extrait et on se quitte là-dessus en se donnant rendez-vous le premier vendredi du mois de février pour votre numéro de scène de Vivid Scène.
Tout à fait, merci.
Assalamu alaikum sunu mami ñu ngi leen nuyu bu baax ndax dañuy waja dem ben voyage dañu ñëwon fi pour sakku ci ay ñaan
da ragal wax ko
dama ragal kay dama
wax c'est ça avoula ki ci maz nga nek stade mag
yow li sa xel mi kan moko ci def gis nga fi ma nek fi la bëgg nga nek fi wax li ñi noy nak yow
dana yaakar ni europe mo gëna fess bu fekke da ngeen bëgg de dem le
Mais j'arrête de fouler là. T'es bon, il fait pas une idée, c'est des ailes.
C'est bien. Argent brisant.
C'est tout. À quel âge?
Moi, j'ai 16 ans.
Et il est où ton cousin?
On l'a attrapé quand on était dans le désert.
Nga non wax bu ñew tamit li la xolal li ma déwé Sénégal mo mu gëna
ko do dé ma ngi ni bu ko bañ ni bu yex sénéñ ba paré boy
si jamais tu conduis le bateau et t'emmène toi et ton ami
je suis pas capable de conduire ces grands bateaux là
il y a beaucoup de personnes il y a des vies il y a des enfants
c'est nous ah lo xew
le wala la du mo gi sétu sama ya to ma bu ko ngi sétu ya nako mu baal mu ak
Capitano!